Jean Gilbert, aux amis, bonjour. Rosie, bonjour. Immacula, bonjour. La belle-mère, bonjour. Je crois avoir salué tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont connectés à présent. Allons, bon dernier jour de mai 2022. Bonjour Maggie. Bonjour Marie-André. Bonjour Farley. Bonjour Natacha. Bonjour Indiren. Bonjour à mon père, à ma mère. Merci Maggie, soyez bénie vous aussi. Donc journée ennuagée, on va dire, nuageuse aujourd'hui. Hello Pastor David, God bless you. So glad to have you with us this morning. Marcella, bonjour. Yolaine, bonjour. Claude, bonjour. Nihao Yaoi. Claude, pas commencé, non? Bonjour. Hello Sylvia. Claude Wap mette un long problème là, oui. Merci Pascal, soyez bénis vous aussi. Alors, je suis de retour à la maison parce que il y a quelques difficultés avec les connexions à l'église ces jours-ci. Donc, j'ai préféré ne pas prendre de risques et rentrer à la maison pour faire la diffusion de ce matin. Rachel, bonjour. Bonjour la belle-mère, shalom. Marie-Marthe, bonjour. Bonjour Rachel, aux sœurs qui sont avec toi aussi. La sœur Chantal, la sœur Ocilia, la sœur Mona. Hermana Flori, que Dios me la bendiga a usted y a su esposo también. France, bonjour, bonjour à Patrick. Nathalie, bonjour. Bonjour à la petite famille aussi. On débute dans 3 ou 4 minutes. Merci. Merci à toi de même, Nathalie. Merci, Yolaine. Idem de ton côté. Bonjour, Guy. Sois béni. Déjà ouvrir vos Bibles dans Jérémie au chapitre 33. On débute notre dernière semaine sur ce passage. Bernadette, bonjour. Encore 1 ou 2 minutes, puis on va débuter. J'étais dans la cour moi-même un peu plus tôt, Bernadette, Rosie. J'ai sorti Nema et j'ai pris mon café à l'extérieur. Lucie, bonjour. J'y étais aussi assez tardivement hier soir. Merci Lucie, idem pour vous. On s'excuse encore pour les difficultés de diffusion hier matin et hier soir. Donc il n'y a pas eu de diffusion hier, on s'en excuse. Mais c'est des problèmes techniques qu'on a actuellement. Ce matin, il n'y avait pas de moustiques parce qu'il faisait frais. Hier soir, il y en avait quand même un peu. Marguerite, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour Denise. Denise de Laval. Ah, j'ai pas demandé au pasteur Sergio comment ça avait été à Deux Montagnes ce dimanche, mais je crois que vous l'avez vu ce dimanche. C'est lui qui remplaçait le pasteur Thévenot. Hermana Heide, que Dios me la bendiga. A usted y a mi compadre, el hermano Edwin. Alors, prions et on va débuter. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes, pour cette méditation d'aujourd'hui. On te demande d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, de nous rassasier, de nous abreuver par cette parole que tu as préparée de toute éternité. Nous te demandons ta grâce, ta bénédiction sur chacun d'entre nous et nous te disons déjà merci, sachant que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien le bonjour à vous tous en ce mardi 31 mai 2022. C'est déjà le dernier jour du mois de mai, comme ça passe vite. Et cette semaine, on entreprend donc la troisième et dernière semaine sur la thématique des leçons de la prison. Et on prend comme texte, bien entendu, comme on l'a fait à travers les 2 dernières semaines, le passage de Jérémie au chapitre 33. Alors que Jérémie est en prison. Donc, on vous invite à ouvrir avec nous dans Jérémie au chapitre 33, les versets 1 à 3. Je vais le lire et par la suite, je vais relire donc le verset 3 pour qu'il s'imprègne bien en chacun d'entre nous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et je répète donc pour vous deux fois le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et on la répète tous ensemble. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors à travers les prochains jours, on va, oui, terminer notre leçon sur tous les enseignements que peuvent nous apporter nos temps de difficulté ou ceux qu'on rebaptiserait nos temps de prison et de tribulation. On vous rappelle ce qui se passait dans le temps de Jérémie. Jérémie avait été appointé par Dieu pour être prophète des nations. Il avait été établi, la Bible nous dit, avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Et Dieu l'avait déjà choisi, il l'avait déjà établi. Et Dieu l'avertit au début même de son ministère que les gens vont lui faire la guerre. Et quand on parle des gens qui vont lui faire la guerre, on ne parlait pas des peuples ennemis, mais au sein même du peuple d'Israël, donc au sein même de son propre peuple, le peuple de Jérémie. Et on se rend compte dans le chapitre 32 que Jérémie va élever la voix, inspiré par Dieu, bien entendu, ayant reçu un message de la part de Dieu, et il va avertir le roi Sédécias ainsi que le peuple de Juda que le royaume va être renversé, que le roi va être renversé et que Babylone va prendre la mainmise sur le territoire de Juda ou du sud d'Israël. Et bien entendu, une telle annonce, ça déplaît au roi. Donc, il décide d'emprisonner Jérémie, comme ça se faisait à l'époque. Il n'y avait pas une espèce de cour à laquelle on allait plaider nos choses. On se faisait arrêter et après ça, on essayait de démontrer que nous n'étions pas coupables. C'est pas comme on a dans nos sociétés modernes où on est innocent jusqu'à preuve du contraire. À l'époque, c'était tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc Jérémie va se faire enfermer dans un cachot juxtaposé au palais royal. Et dans cet endroit sombre, c'est là qu'il aura cette conversation ou que Dieu va s'approcher de lui en lui parlant. La première semaine, on a vu que Dieu parle encore. Alors au-delà du fait que Jérémie se trouvait en prison, Dieu décidait de ne pas arrêter de parler à Jérémie. Dans la deuxième semaine, on a vu que Dieu agissait encore, en dépit que Jérémie soit enfermé à double tour dans le cachot. On voit le Seigneur apparaître et le Seigneur venir à la rencontre de Jérémie en disant « Je suis encore celui qui fait toutes choses ». Et dans ce dernier verset, il va y avoir un terme qui m'est très très cher, qui m'a été très précieux dans des moments difficiles que j'ai eu à traverser parfois dans ma propre vie. Le terme important, invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses. Invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées. Invoque-moi et je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Tout dépend de l'invocation. Donc les choses cachées, les grandes choses, les choses qu'on ne connaît pas, que le Seigneur nous révélerait, dépend de l'invocation. Et on va voir cette semaine que ici on ne parle pas du tout du ministère de prophétie. Bien que Dieu s'adresse à Jérémie, et que Jérémie soit un prophète, Il n'est nullement question de la capacité à Jérémie de remplir son rôle en tant que prophète, donc de recevoir des informations cachées de Dieu. Non, ici on va se rendre compte que c'est une question légale, une question juridique qui va être abordée tout au long de la semaine. En fait, c'est Dieu qui va expliquer à Jérémie le genre de plaidoyer qu'il va faire en faveur de son serviteur face à ses accusateurs, face à ceux qui le malmènent. Et pour nous, la pensée pour cette semaine, c'est quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir l'avocat que nous avons à nos côtés. Pourquoi je parle d'avocat? Parce que le terme invoqué à la base est un terme qui a un sens tout à fait précis. Invoquer ne veut pas simplement dire appeler, ne veut pas simplement dire prier, ne veut pas simplement dire élever une espèce d'intercession à l'égard de l'Éternel. Non, invoquer est un terme tout à fait légal qui veut dire faire appel à quelqu'un qui est plus puissant que nous. Faire appel ou avoir recours auprès de quelqu'un qui peut intervenir. C'est un peu comme lorsqu'on se retrouve en cours. Si ça vous est déjà arrivé, dans mon cas, ça ne m'est jamais arrivé, mais je l'ai vu dans des films, j'ai vu des gens qui sont passés à la cour. Et lorsqu'ils arrivent en cour, ils font appel à des témoins, ils font appel à des experts, ils font appel à des ressources externes pour venir valider leur position, leur cas, leur argumentaire légal. Et ici, Dieu est en train de dire à Jérémie, si tu m'invoques, si tu fais appel à moi, alors oui, je te répondrai. Alors oui, j'annoncerai de grandes choses. Alors oui, je t'annoncerai des choses cachées. Et oui, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Invoquer, c'est faire appel à Dieu, faire appel à la justice de Dieu, faire appel à l'intervention de Dieu, sachant qu'il n'y en a pas de meilleur. Pourquoi je spécifie ça, faire appel à Dieu? Parce que très régulièrement, lorsqu'on passe par des moments difficiles, notre premier réflexe n'est pas de se tourner vers Dieu, mais d'essayer de trouver par nous-mêmes un moyen de manœuvrer dans les différents dédales dans lesquels on peut être, essayer de se débrouiller tout seul. Assurément, Jérémie est dans un moment difficile. Assurément, Jérémie est dans un moment où peut-être sa foi est en péril, où sa foi est ballottée. Et Dieu lui dit, au lieu de te débrouiller par toi-même, fais appel à moi. Et ça devrait être notre premier réflexe. Malheureusement, parce que nous sommes qui nous sommes, parce que nous sommes humains, parce que notre nature est pécheresse, parce que nous sommes défaillants dans ce que nous faisons, très régulièrement, au lieu de nous tourner directement vers Dieu, de façon instantanée, peu importe la circonstance et la situation, on va vouloir donner un petit coup de pouce au Seigneur, un coup de main au Seigneur, en lui disant, regarde, tu es tellement occupé, tu as tellement de choses à faire que je vais essayer de me débrouiller par moi-même. Malheureusement, aucun d'entre nous n'est capable. Je vais prendre une gorgée. Aucun d'entre nous n'est capable d'avoir les résultats que notre Seigneur, lui, va avoir. Je ne dis pas que lui peut avoir, mais je dis bien que lui va avoir. Peu importe les talents que tu peux avoir, peu importe l'équipe juridique que tu mettrais à tes côtés, peu importe les avocats chevronnés qui seraient avec toi, s'il n'y a pas Christ, et si ce n'est pas Christ qui dirige l'ensemble des choses, ton résultat sera moindre que celui que tu obtiendrais en te confiant directement à Christ. Alors, je crois qu'ici, non seulement Dieu fait appel à Jérémie, mais aussi se sert de Jérémie pour nous enseigner à tous et chacun, puisqu'on est les lecteurs de cette chose quelques millénaires plus tard, pour nous rappeler à l'ordre. Que fais-tu? Que fais-je? Que faisons-nous lorsque nous passons par un moment difficile? Est-ce que notre premier réflexe est d'invoquer Dieu? Invoquer est un terme juridique qu'on utilise parfois, et vous l'aurez vu dans certains films américains notamment, lorsque quelqu'un se présente en cour et qu'on lui demande de témoigner. Mais dans son témoignage, il pourrait y avoir quelque chose qui revienne contre lui. Il pourrait y avoir un argument qu'on pourrait prendre pour l'accuser encore davantage. Alors la personne, ce qu'elle va faire, elle va dire, j'invoque le deuxième ou le cinquième amendement de la Constitution, qui lui permet de témoigner, mais qu'on ne puisse pas prendre quoi que ce soit comme détail, comme item de son témoignage pour l'accuser davantage. En fait, il est en train de dire, je vais dire quelque chose, je vais révéler quelque chose, mais je me place sous la Constitution américaine pour qu'on ne puisse pas m'accuser avec ce que je m'apprête à dire. C'est se placer sous la tutelle, sous la protection de quelque chose qui est plus grand, plus fort, plus noble que soi. Lorsque le Seigneur nous dit invoque-moi, c'est dans ce même sens-là, de se placer sous la tutelle, sous la gouverne, sous le parapluie que nous offre le Seigneur. Malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on regarde ça, on fait le lien avec l'effet Lego qu'on a mentionné tout à l'heure, et on se dit, OK, si je me mets sous ta gouverne, ça veut donc dire que je n'ai plus la liberté. Ça veut donc dire que je n'ai plus la capacité d'agir. Ça veut donc dire que tu vas me diriger, me conduire. Et chez nous, en tant que nature pécheresse qui s'approche de Dieu, on a souvent ce malaise à se placer sous la gouverne totale de Dieu. On voudrait, oui, se soumettre à Dieu, mais en continuant à avoir un certain droit, en continuant à avoir une certaine autonomie. Lorsqu'on se place sous la gouverne de tel ou tel argument légal, ce qui se passait dans le temps, c'est qu'on était libre des accusations et libéré des méfaits desquels on nous accusait, tant qu'on vivait en accord avec cette parole. Donc, on était en train de dire, voici, je vais me protéger sous un argument légal qui m'est offert, mais je vais être libre. Et je vais être exclu de tout châtiment tant que je reste correct et tant que je me soumets à cette nouvelle autorité. Mais si un jour on venait à enfreindre la loi, toutes les anciennes accusations retombaient sur nous. Et là, on se dit, mais là, ça nous impose un mode de vie, ça nous impose une façon de faire, ça nous impose une conduite, ça nous impose une direction sur notre vie. Et en tant que grand démocrate, que nous sommes, grands indépendants que nous sommes, on veut se défiler de cela. Pensons-y clairement. Où peut t'amener ta propre décision? Où peut t'amener ta propre sagesse? Où peut t'amener ta propre volonté? Volonté, sagesse, décision qui sont teintées par ta nature pécheresse. Ta nature ne t'amènera jamais vers Christ. Ta nature ne t'amènera jamais vers le salut, mais t'amènera toujours à la corruption, à être corrompu et à être condamnable. Le seul qui peut t'amener au salut, c'est Christ. Alors lorsque le Seigneur te dit, place-toi sous ma tutelle, appelle, fais appel à moi, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de meilleure option pour toi. Et c'est comme ça que nous devrions voir notre soumission à Dieu, notre capitulation devant Dieu, sur le fait qu'il n'y a pas de meilleur endroit. Le roi David avait tellement compris ça qu'il disait, Seigneur, je pourrais être 1000 jours ailleurs, mais il n'y a pas un meilleur moment que d'être près de toi. Mieux vaut un jour en ta présence que 1000 ailleurs. David, un roi glorieux, un roi puissant, un roi bien nanti, disait, regardez, je pourrais aller dans tous les palais de ce monde, je pourrais aller dans toutes les contrées, dans toutes les nations de ce monde, mais il n'y a pas un meilleur endroit que d'être dans la maison de l'Éternel. Et quand je suis dans la maison de quelqu'un, je suis sous la tutelle de quelqu'un. Lorsque je vais visiter quelqu'un, je me plie aux règles de la maison que je visite. Je vais manger ce que les gens mangent, je vais agir selon les us, les coutumes, les mœurs des personnes qui m'accueillent. Alors lorsque David disait « Mieux vaut un jour dans ta maison », c'est qu'il était en train de dire « Dans cette maison qui est la tienne, je vais vivre selon les règles, selon les principes, selon les façons de faire de cette maison. » Lorsque David va dire « Eh oui, j'habiterai à tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il rajoute après? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc David disait, lorsque je vais habiter dans la maison de l'Éternel, si j'habite dans la maison de l'Éternel, alors non seulement je vais y être bien et je désire y être pour le restant de ma vie, mais je sais que c'est là que le bonheur et la grâce seront disponibles pour moi. Lorsque Dieu te demande ou t'invite plutôt à te placer sous sa tutelle, parce qu'ici ce n'est pas un ordre, ici tu es en train d'offrir une suggestion à Jérémie, il est en train de lui faire une invitation, en disant, regarde Jérémie, tu es en prison, je sais que ça va mal, je sais que tu as mal, je sais que tu es troublé, je sais que tu es inquiet, voire terrorisé, je sais que l'avenir est incertain pour toi. Dans tout ce que tu vis actuellement, je t'invite, fais appel à moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être sous la protection du divin avocat. Quand je disais tout à l'heure que ce terme invoqué, qui en hébreu est le terme kara, Qara, quand je disais que c'était une terminologie qui était importante pour moi, c'est que le terme kara a aussi une image. Vous savez qu'en hébreu, comme en grec, les mots sont très imagés. On les traduit en français par des choses qui sont, ou dans les langues modernes, par des choses qui sont pas mal plus neutres. Kara, lorsqu'on retourne à son étymologie d'origine, et certaines traductions, notamment en allemand, vont le traduire de cette façon-là, Kara va avoir l'image du cri d'une bête. Textuellement, Kara va vouloir dire le cri d'une bête. Et j'expliquais dimanche que le cri d'une bête, c'est pas comme quand Emma aboie. Quand elle aboie, elle est en train de parler, est en train de se faire entendre. Le cri d'une bête, c'est dans deux cas très, très spécifiques. Le cri d'une bête, c'est le hurlement d'une bête. Ce n'est pas son son habituel. C'est le son qu'elle va émettre lorsque cette bête est terrorisée ou blessée. J'expliquais que les premiers temps où on a eu une Emma, on n'était pas habitué à avoir un chien avec nous et on n'était pas habitué à avoir une queue de chien avec nous. Donc quand on allait marcher, pour des raisons que j'ignore parce que ce n'est plus le cas maintenant, mais on avait tendance à lui marcher sur la queue. Et à chaque fois qu'on appuyait, ne serait-ce qu'un petit peu sur la queue, elle se mettait à crier brièvement, mais à faire un cri très distinct qui montrait qu'elle avait mal. Je vous ai déjà expliqué la fois où elle est dans la cour à l'extérieur en hiver et tout d'un coup, quelque chose lui fait mal. Et elle s'est mise à hurler et à rentrer. Elle est rentrée dans la maison à trois pattes, une patte recroquevillée. C'est là qu'elle s'est probablement déchirée des ligaments au niveau du genou. Mais son cri était si intense, si fort, que même les voisins nous en ont parlé par la suite en disant, mais qu'est-ce qui est arrivé à Emma? On l'a entendu crier. Ce n'était pas l'aboiement, c'était un cri de douleur. Et lorsque le Seigneur dit Kara vers moi ou invoque-moi, il est en train de dire ça dans ce moment de douleur, dans ce moment de crainte, dans ce moment de peur, crie vers moi comme une bête crierait parce qu'elle a peur ou parce qu'elle a mal. Quand j'ai compris cette notion, ça a été tellement libérateur pour moi. Ça m'a tellement apporté aussi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que très régulièrement, lorsqu'on prie, Moi, peut-être particulièrement, puisque pendant un certain temps, j'ai étudié les grands auteurs français. Donc, j'aime une langue qui est bien parlée, qui est bien châtiée. J'aime avoir une multitude d'adjectifs synonymes pour dire une même chose. J'aime quand ça rime à la fin de deux phrases qui suivent. Alors, parfois, je vais prier et ça va être comme ça. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, lorsque je me présentais devant le Seigneur comme ça, c'était correct, il accepte ma prière, il entend ma prière, il connaît mon cœur et tout ça. Mais ce n'est pas le fin fond de moi que j'ai présenté à Dieu. C'était l'image que j'espérais que Dieu aime et approuve. Dans le moment où nous invoquons Dieu, c'est dans ce moment où la douleur est si forte, l'inquiétude est si forte, le désarroi est si puissant que le flafla, la dentelle de nos prières ne compte plus. Et on sort à Dieu tout ce qui sort comme ça sort. Je me rappelle de moments où j'étais tellement en douleur dans mon âme qu'avant de rentrer à la maison en quittant le bureau, je m'arrêtais dans certains endroits où je savais que personne ne me verrait et je criais vers Dieu comme une bête peut crier lorsqu'elle a mal. Les choses sortaient, les larmes sortaient, larmes et l'âme sortaient comme ça sortait. Je m'inquiétais plus de savoir est-ce que les mots étaient bien ajustés, est-ce que la conjugaison était la bonne, est-ce que le vocabulaire était assez riche. Ça sortait comme ça sortait. C'est si précieux d'avoir ce moment libérateur avec Dieu, où on peut venir vers notre avocat. On peut venir vers notre Seigneur alors qu'on est enfermé dans cette prison et qu'on ne sait pas comment en sortir et dire Seigneur, je te dis simplement comme ça sort. Je me rappelle que dans ces moments-là, je parlais à Dieu. Je n'étais pas en train de l'insulter, je n'étais pas en train de l'offusquer ou de l'offenser, mais je sortais simplement le trop-plein de douleur, le trop-plein d'émotions à l'intérieur, peu importe comment ça sortait. C'est ça, avoir cette liberté de pouvoir crier à Dieu comme une bête crie son désarroi et sa douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers mon Seigneur, je peux me présenter tel que je suis. Je peux me présenter sans avoir peur et sans avoir crainte d'être mal perçu, mal compris, mal entendu. Lorsqu'un avocat vient nous voir, on est en prison, il vient nous voir. On n'essaie pas de lui dire comment il doit faire les choses, on lui dit simplement, fais ton boulot parce que je ne suis pas capable de me sortir de là où je suis. Lorsque on fait cette invocation vers Dieu, on lui dit, Seigneur, j'ai mal. Je n'ai pas d'autre chose à te dire, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, j'en ai ras-le-bol. J'en ai assez, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Les choses sortent simplement comme elles sortent. Combien c'est libérateur. Est-ce qu'on comprend que cet avocat qui vient nous voir dans notre cachot, où personne ne vient nous voir, on nous a peut-être oublié depuis un certain temps, c'est une des seules visites qu'on reçoit, et là on peut se présenter devant lui et lui dire, voici tout ce qui se passe, voici comment je me sens, voici ce que je vis, voici mes peurs, voici mes craintes, balbutier. Verser les larmes, avoir le nez qui coule ou autre, ça ne l'offusque pas. Ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est qu'on ait assez confiance en lui pour dire Seigneur, je n'ai pas d'autre endroit où me tourner. Je n'ai pas d'autre endroit auprès de qui répandre mon âme. Que ça sorte comme ça sorte. Seigneur, écoute-moi s'il te plaît. C'est ça, invoquer Dieu. Et je peux vous dire que si vous expérimentez cette chose, vous allez découvrir une délivrance, vous allez découvrir quelque chose de salutaire pour votre âme. Depuis que j'ai compris cette notion du cri de la bête que je peux lancer vers Dieu, ça a été un instrument de libération et un instrument d'apaisement de mon âme à maintes et maintes et maintes reprises, et je ne m'en prive pas. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, et je lui expliquais, en fait, c'était une sœur qui passait par par le deuil. Et je lui expliquais que je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Je ne suis pas le genre de gars ou d'homme qui verse énormément de larmes. Toutefois, pendant la maladie, il m'est arrivé parfois, et je vous l'avais déjà expliqué, de passer des heures sous la douche simplement pour pleurer. Pas parce que j'avais mal, pas parce que je craignais, pas parce que j'avais peur, mais j'étais dans un trop-plein de désarroi, j'étais dans un trop-plein d'émotions que je ne savais plus gérer. J'étais dans un état de fatigue émotionnelle et physique si intense avec les traitements que je recevais, que le seul soulagement que je trouvais, c'était d'aller sous la douche et de pleurer pendant des heures, 2 heures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude qui coule. Et pour moi, c'était une délivrance. Et je me suis rendu compte que les pleurs sont justement partie prenante de ce cri de la bête. Les pleurs sont justement une soupape que Dieu nous donne pour faire sortir le trop-plein. Je ne dis pas de tomber et de devenir des pleureurs ou des pleureuses professionnelles, comme on voit dans certaines cultures. Quand quelqu'un décède, on paye les femmes du village pour venir pleurer avec grand émoi et puis un grand cri, même si elles ne connaissent même pas la personne qui est décédée. On les paye et elles font leur travail, elles font leur simagrée et elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent très fort. Et ça donne des sentiments ou des émotions à tous ceux qui les entendent. Ce n'est pas faire semblant, mais c'est de comprendre que le Seigneur nous permet effectivement de venir vers lui et de pleurer. Qu'a-t-il dit aussi? Celui qui sème avec larmes moissonnera avec action de grâce. Donc le pleur n'est pas une marque de faiblesse. Les pleurs ne sont pas une marque de faiblesse. Les pleurs sont aussi un instrument que Dieu nous donne pour notre liberté et pour notre apaisement. Il y a le trop-plein d'émotions qui sortent avec le cri de la bête. Il y a le trop-plein d'émotions qui sort avec les larmes qu'on a parfois à déverser. Mais pour ce faire, il nous faut invoquer le Seigneur en lui disant: Seigneur, je te présente la chose comme elle est. Je te présente ma peur comme elle est. Je te présente mon désarroi comme il est. Seigneur, je ne cherche pas à me présenter comme Superman. Je ne cherche pas à me présenter comme Superwoman. Je n'essaie pas de me présenter comme un super-héros. Je me présente devant toi tel que je suis, avec la douleur qui est la mienne, avec la crainte qui est la mienne, avec le désarroi qui est la mienne, qui est le mien, avec l'inquiétude qui est la mienne, avec la terreur qui m'habite, avec les tremblements par lesquels je passe. Je sors tout ça et je le présente à qui? Au meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs avocats qui soient. Et lui dit: maintenant, mon fils, tu as tout sorti, laisse-moi faire. Maintenant, ma fille, tu as tout sorti ce qui devait sortir, laisse-moi faire. Laisse-moi être au contrôle de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas une autre personne à qui confier tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons, et qui va s'en occuper si bien que Christ lui-même, notre avocat auprès du Père. Alors ce matin, on va juste remercier le Seigneur pour l'avocat qu'il est et pour cette opportunité qu'il nous donne de nous présenter à lui tel que nous sommes, et qui reçoit et qui écoute même les cris qui sortent de notre âme. Ce que personne d'autre ne voit que lui, il est là pour les recevoir, pour les entendre. Il dit: mon fils, en ma présence, laisse-toi aller. Ma fille, en ma présence, laisse-toi aller. Sors ce qu'il y a à sortir. Et une fois que ça sera vidé, la paix de Christ va entrer en nous. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole que j'espère libératrice pour mon frère, pour ma sœur, pour nos bien-aimés qui nous écoutent ce matin. Au même titre où, pour moi, cette découverte de l'invocation a été un moment clé dans ma vie, un moment qui a été profitable à plusieurs reprises dans mon cheminement, où j'ai pu effectivement te présenter toute la douleur qui m'habitait, toute la peur qui m'habitait, en sachant que tu recevais chacune des paroles, que tu les recueillais. Seigneur, c'était ma façon de venir m'abriter sous ton aile, de crier pour ton secours, de crier, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde à mon égard. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas fait attention aux erreurs d'orthographe, aux erreurs de syntaxe, aux erreurs d'accord, à un vocabulaire qui était plus réduit que d'habitude, peut-être. Seigneur, tu as juste reçu la prière de ton enfant telle qu'il la sentait et telle qu'il se sentait à ce moment-là. Merci, Seigneur, de nous recevoir tels que nous sommes. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, répandre ta bénédiction sur nous et de nous appeler encore, peu importe ce que nous passons, peu importe ce que nous vivons, de nous permettre, Seigneur, de nous présenter en toute assurance que notre avocat est là pour nous entendre et être le protecteur de notre âme, de notre esprit, de notre vie. Alors ce matin, je prie que ta fille, que ton fils puisse te découvrir dans ce rôle d'avocat, comme on va le faire tout au long de cette semaine. Je prie que ton fils et ta fille puissent avoir cette liberté de s'approcher de toi et d'ouvrir pleinement leur cœur devant toi. Et je sais, Seigneur, que tu recueilles chacune des larmes, que tu recueilles chacune des paroles qui seront prononcées dans ces moments d'intimité avec toi. Merci pour cette étape capitale dans la vie de ton fils et de ta fille. Merci pour cette expérimentation toute particulière de l'invocation qui sera assurément une pierre qui va jalonner à tout jamais leur parcours et leur marche avec toi. Je bénis leur journée, je bénis cet instant qu'ils prendront avec toi. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On se retrouve demain, donc à la même heure, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et rappelez-vous que votre divin avocat est à vos côtés. N'ayez pas peur de lui parler, même si vous avez mal, même si vous êtes troublé, même si vous êtes apeuré. Tournez-vous vers lui et laissez sortir ce qui doit sortir. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse.